l'amour à la charité qu'on veut regarder. Mais moi, Dieu, je l'aime, je l'aime. Ah oui, c'est pas certain. C'est pas certain. Voilà. Alors, l'Église, au fond, elle enseigne aussi des voies qui permettent à l'amour de s'intensifier plus vite. Et c'est l'esprit d'obéissance. Alors, moi, ce que je trouve, que j'aimerais bien, mais je suis pas sûr que pouvoir y arriver, d'arriver à trouver des voies d'accès à la fin de l'année, essayer de récapituler, tu sais, les fameuses grimaces, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les caricatures, les critères, etc., de l'esprit d'obéissance, qui est la seule voie par l'intermédiaire de laquelle l'amour peut augmenter, peut être purifié, peut être surnaturalisé dans notre cœur humain. Alors, je crois que c'est ça le but un petit peu, philosophie de l'amour. C'est pour ça, donc, mais si regardez, c'est quand même l'amour surnaturel, l'amour divin dans un cœur humain, mais vu quand même à partir du bas, à partir de la philosophie. La philosophie a le droit de faire, d'essayer de comprendre ce que dit la théologie d'un amour surnaturel. Après tout, pourquoi pas. Ça, c'est un exercice de...
Dimanche.
Ah, alors le dimanche. Oui, le dimanche, ce que j'aurais aimé, mais j'espère que Dieu nous en fera la grâce, c'est de regarder les fruits des sacrements. Donc, on a des sacrements, on a eu ensemble l'occasion à certains moments dans ces dernières années de regarder différents sacrements. En les approfondissant, on avait commencé du reste par la sponsalité, puis après l'Eucharistie, on avait fait une retraite. Sacrement. Et chaque sacrement, dans chaque sacrement, on avait regardé comment on rentre dans le sacrement, la matière, la forme, le fruit, enfin pardon, l'effet du sacrement, et puis il y a aussi le fruit. Chaque sacrement a un fruit. Les sacrements, ce sont des moyens, c'est une espèce de robinet. Tu ouvres le robinet de l'Eucharistie, tu ouvres le robinet du mystère de la confession, tu ouvres le robinet du sacrement de mariage. Il y a un certain nombre de robinets. Et une fois que tu as la flotte, tu la bois. Voilà. Mais le robinet, à ce moment-là, disparaît. Une fois que tu ne t'occupes plus du robinet. Donc on regarde les sacrements une fois qu'il n'y a plus les sacrements. C'est après, après que les sacrements aient donné leur bien, leur fruit. Ce qui serait bien, c'est de regarder qu'il y a une complémentarité dans le fruit des sacrements. Hein, c'est pas, au fond, c'est de reprendre ce qu'on a déjà vu au fond, le sacrement de l'ordre, le sacerdoce royal, à être un fruit particulier. Tu vois, l'Eucharistie a un fruit. Quand le sacrement disparaît, il y a une réalité nouvelle qui jaillit en nous. Dans le mystère de la confession, il y a une réalité surnaturelle nouvelle qui jaillit en nous, parce que le sacrement disparaît. La sponsalité aussi, c'est pareil.
On ne peut pas vivre des sept sacrements, quand même.
Et si, justement, on doit vivre des sept sacrements.
Oui, mais enfin, il y a des sacrements auxquels on...
Alors, justement, parce que tu peux très bien ne pas être ordonné prêtre, par exemple, pour la bonne raison que tu es une femme, mais tu dois vivre, à ce moment-là, du sacrement, dans son fruit. Parce que tu dois user du sacrement de l'ordre, puisqu'il t'est donné. Les prêtres sont à ton service. Et donc, tu dois user du sacrement du sacerdoce. Tu dois utiliser le sacrement de l'ordre dans le pape, dans l'évêque, dans le prêtre. Et si tu uses de ce sacrement, alors tu obtiens le fruit du sacrement. Tous les sacrements, on doit en user. Là, il y a des gens que moi, par exemple, je ne reçois pas le sacrement de mariage.
Voilà,
mais je vis du fruit du sacrement de mariage du point de vue mystique et surnaturel. Et il faut que j'apprenne ce que c'est que le fruit du sacrement de mariage et comment je peux vivre du fruit de ce sacrement sans pourtant avoir reçu ce sacrement. Si C'est hyper intéressant de savoir comment on vit des sacrements. On vit des sacrements, bon, alors on vit des sacrements en étant pratiquant, si vous voulez, par exemple. Les gens qui reçoivent le sacrement de mariage, qui ne sont pas pratiquants, ils ne savent pas comment on célèbre la messe sponsale. Ils ne connaissent pas. Non, ils ne savent pas comment on fait pour célébrer la messe sponsale. C'est terrible. Bon, mais ça c'est un point. Il y a des gens qui savent qu'il y a l'Eucharistie, mais ils ne savent pas comment on célèbre l'Eucharistie, ou comment on vit l'Eucharistie, comment on s'unit à la messe, comment on communie au mystère de l'Eucharistie. La confession, c'est pareil. Il y a des tas de prêtres qui sont prêtres, mais est-ce que c'est ça le problème? Est-ce qu'ils sont capables d'être pratiquants dans leur sacerdoce, de pratiquer le sacrement du sacerdoce, de mettre en œuvre, quoi? Qu'on soit pratiquant, c'est une chose, mais vous savez, c'est très difficile de savoir comment est-ce qu'on use les sacrements. Donc il y a l'usage des sacrements et il y a la fruition des sacrements pour être également capable de savoir ce qu'un sacrement, lorsqu'il disparaît, il s'épanouit dans un don. Le sacrement est un moyen et il nous donne un fruit. Nous cueillons le fruit des sacrements et quand le fruit est cueilli, l'arbre, c'est-à-dire le sacrement, on s'en occupe plus, on s'occupe plus que du fruit. Alors c'est ça. Alors c'est il y a dans un petit jardin avec 7 arbres fruitiers extraordinaires. Alors on recueille 7 fruits et il faut voir que quand on fait au fond la salade de fruits, et ça fait une salade de fruits parfaite parce que chaque fruit, cet ensemble est, il y a une complémentarité entre les fruits et les sacrements qui fait que c'est parfait. C'est ça qu'on voudrait regarder, tout simplement. En plus, c'est très utile, je trouve. Oui.
Je pense aux personnes qui communient, par exemple, spirituellement.
Oui, la communion mystique, oui. Ben, c'est un certain usage du sacrement, ce n'est pas un fruit, ça.
D'accord, mais à ce moment-là, elles doivent avoir le fruit du sacrement, même en...
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Oui, la communion mystique, ce n'est pas un fruit. Quand je communie mystiquement à l'Eucharistie, ce n'est pas un fruit. Comme venu mystiquement, c'est une manière d'user du sacrement qui existe quelque part.
Mais je veux dire,
le rejoins mystiquement. Et j'en use mystiquement. Mais une fois que j'en use, hein, je prends et si j'en use sans essayer de récupérer le fruit du sacrement, donc c'est ça l'important, c'est d'être très 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 attentif et très responsable de ce qui se passe quand le sacrement disparaît et libère son fruit. Et qu'est-ce que je fais ce fruit? Parce que c'est avec ce fruit que je deviens surnaturellement fécond. Et je deviens donc responsable, quelque part, du monde, vous voyez? Voilà. Bon, ben oui, ça c'est des choses, vous savez, qui sont... Il y a... en réalité, il faudra qu'on prenne... Puis là, justement, je ne sais pas, là, c'est ça, c'est un peu embêtant, je ne sais pas retrouver. Mais il faudrait qu'on reprenne simplement les tableaux qu'on avait faits. Il faut reprendre les tableaux, le tableau sur l'Eucharistie, le tableau sur la confession, le tableau sur la spontanéité, le tableau sur le sacrement de l'ordre, sur le sacerdoce, etc. Et ça, ce serait quand même assez génial. Et je pense que bon, là, je cherche, je ne le trouve plus. Mais ça ne fait rien, on va quand même essayer de regarder et faire de mémoire. On ne va pas pomper. Hein? Alors avant, on me pose une question, et si vous voulez bien, je réponds. Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? C'est parce que, allusion à ce qui s'était dit hier, ça, en disant, mais on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur parce que, à cause du péché, on constate c'est à propos de ce qu'on disait hier. On constate qu'on a cet appel à l'amour et qu'on veut aimer et que si on engage toutes nos billes à aimer, on s'aperçoit qu'on bute, on n'est pas assez fort. Et on s'aperçoit qu'on trahit l'amour. Et on constate des échecs dans l'amour, on constate du mal à chaque fois que nous faisons... que nous essayons d'incarner cet amour. On constate qu'il y a du mal. On constate la maladie aussi qui affaiblit l'amour. Il y a l'amour à quelque chose en nous de maladif. Pourquoi ? Parce que notre cœur est blessé. Et notre cœur est blessé à cause de ce phénomène qu'on appelle, qui n'est pas normal, qui n'est pas du tout naturel et qu'on appelle au fond le péché. C'est séquelles. Et puis les conséquences de nos péchés personnels ou de l'atavisme, du péché symbiotique, du péché communionnel. C'est-à-dire, on est dans un contexte, qu'est-ce que vous voulez, un certain contexte. Un contexte qui n'est pas prévu par la sagesse créatrice de Dieu. La sagesse créatrice de Dieu, n'avait pas prévu. Bon Dieu n'avait pas prévu qu'il y aurait du péché, c'était impensable pour lui. Mon Dieu ne pense pas, qui contemple. Mais si Dieu pouvait penser, c'est impensable. Si Dieu pouvait penser, la pensée, c'est le cerveau qui pense. Dieu n'a pas de cerveau alors. Mais s'il avait pu penser, c'est impensable qu'il y ait péché. C'est impensable pour Dieu. Et il est complètement étonné, vous savez ça. L'étonnement de Dieu devant le péché. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais nous, on le constate, nous, que notre amour. Notre cœur, il est blessé, et que notre amour n'est pas parfait, que notre amour n'atteint pas son but, que notre amour ne se réalise pas, notre amour ne s'actualise pas. Et alors on constate le mal, on constate la maladie, on constate la mort, on constate l'échec, on constate la trahison, on constate les limites, et on constate les défaillances. Toutes les brisures dans l'ordre de l'amour, on constate. On est rempli au fond de cette on est rempli pas rempli mais enfin on est handicapé par le péché. Voilà. Et personne, rien, aucune technique, aucune méthode ne peut arriver à remettre l'amour debout. Il faut un sauveur. Il faut dire que Dieu qui peut le faire. Pourquoi ? Parce que si l'amour est blessé, c'est parce qu'il n'est plus lié à sa source, qui est l'amour pur et éternel de Dieu. C'est ça le péché d'ailleurs. Il n'est plus totalement relié. Il est relié avec des filtres, avec des barrages, avec des barricades. Hein. Alors ça passe quand même, mais mal. C'est un amour qui se suinte. C'est pas les torrents. Alors, il y a de l'amour, mais... Voilà. Alors, donc, il n'y a que Dieu qui peut réparer, compléter, rédemptorer et nous sauver. On a besoin d'un sauveur. Ce qu'on disait hier, c'est qu'il y a des hommes qui veulent vivre de la lumière, de la vie, de l'amour, et constatent en effet qu'ils ne sont rien du tout. Alors, ils pensent que c'est en se réalisant dans ce rien du tout, en s'anéantissant dans ce non-être qu'ils sont, puisqu'ils ne sont pas capables d'atteindre l'éternité, qu'ils peuvent retrouver l'éternité, puisque Dieu a créé à partir de rien. Alors, pour trouver Dieu, il faut redevenir ce rien, et on touche à nouveau... Dieu qui est éternel, le Créateur. C'est ça l'intuition. Dieu nous crée, hein? Vous savez ça. Dieu nous crée et il prend une matière à partir de rien. Ex nihilo. À partir de rien. C'est à partir de rien que dit, à partir de rien, la matière première. Si toi tu fais une statue, c'est à partir du plâtre que tu fais la statue. Voilà. À partir du bois, tu fais une statue. à partir d'une matière. Tandis que Dieu, lui, quand il crée, nous, quand on crée, il faut une matière. Il faut quelque chose qui existe, qu'il faut une réalité antérieure. Voilà. Tandis que Dieu, quand il crée, c'est à partir de rien. À partir de rien, il dit que cela soit, et cet être est.
Il fait de l'être à partir d'une non-être.
Il fait de l'être à partir d'une non-être. Donc les réalités qui existent sont créées par Dieu à partir de rien. Avant, il n'y a rien. Quand rien n'existait, quand aucune réalité n'existait, Dieu existe. Avant que toute réalité existe, Dieu a toujours existé, c'est ça ? Ex nihilo. Mais si Dieu crée des êtres, un être, si Dieu crée un être, c'est par amour. C'est donc en raison de la cause finale. C'est la cause finale. Parce que l'amour attire. Donc quand Dieu crée, il ne crée pas comme nous, parce que quand je crée, moi, c'est à partir d'une matière ou d'une réalité préexistante. Et donc, quand moi je crée, l'artiste, le créateur, vous voyez, encore une manière de regarder la différence entre le facere et l'agere. L'artiste qui est en moi et l'amoureux qui est en moi, c'est pas ? Moi, quand je crée, c'est à partir d'une matière. Donc j'agis sur cette matière. Et je prends un burin et je tape dessus. On appelle ça la cause efficiente. Et donc cette matière, qui est un espèce de tas, n'est-ce pas ? Je tape dessus avec mon marteau et ça me fait une jolie, magnifique sculpture. Une sculpture extraordinaire. On appelle ça la cause efficiente. Voici l'acte créateur du facere de l'homme. Quand l'acte créateur du facere de l'homme agit sur une matière préexistante, elle produit une œuvre, une réalité donc créée. Et bien ça, on appelle ça une cause efficiente. Voilà. Tu fais une petite pucenette sur la bille et elle bouge. Tu fais qu'elle bouge. Donc il y a une cause antérieure qui fait qu'elle devient, dans le temps, une œuvre. Donc l'œuvre, c'est la fin. Et l'acte créateur pour nous est avant la fin. Tandis que quand c'est Dieu qui crée, c'est le contraire. Dieu n'est pas avant, il est celui qui est amour. C'est dans son amour qu'il est créateur. Et comme c'est dans son amour qu'il est créateur, il crée, non pas par la cause efficiente, il crée par la cause finale. Quand Dieu crée, vous voyez, il rentre de son éternité, il rentre dans le temps. Alors, on supposait que la fin du monde, tu vois, récapitulation glorieuse de toute l'éternité, glorieuse de tout, ce soit en l'an 2047, c'est pas par exemple. Eh bien, Dieu met son doigt en 2047, qui est la cause finale. Il enfonce. 1994, il enfonce. 1967. Je sais pas, t'es né en quoi ? 1967 ? 5. 1965. Il enfonce là, et hop, ça y est, voilà, créateur, tu vois. Il enfonce son doigt à partir de la cause finale, c'est ça, la créature de Dieu.
Ça veut dire que c'est une forme de considérer qu'on peut remonter à l'existence de l'être premier par la cause efficiente.
Eh bien, c'est pas une erreur, mais l'erreur, c'est de dire que de remonter à l'existence de Dieu uniquement par la cause efficiente n'est pas une démonstration.
C'est
ce que faisait Descartes. C'est pour ça que la démonstration de Descartes est fausse.
C'est ce que faisait une certaine scolastique.
Une certaine scolastique, oui, Descartes, c'est une certaine scolastique. C'est quand même, vous voyez, c'est à cause de ça, quand Dieu, il pénètre dans le temps, vous voyez, alors là, bon, c'est un... Ça fait... Dieu pénètre avec son doigt créateur dans le temps, n'est-ce pas, pour faire un être.
Et en fait, au moment de son acte créateur, cet être-là, c'est une cellule à 46 chromosomes dans sa forme, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Marquez bien que... Bon, enfin, donc, hop, et puis il y a aussi le rayonnement, n'est-ce pas, pareil. Non. Mais en tout cas, quand Dieu implique son doigt créateur, ça devient un être qui existe et qui subsiste, et qui subsistera toujours, parce que la subsistance est une des propriétés de l'être, n'est-ce pas. Et bien quand Dieu crée, c'est un être. Et si on allait un instant avant l'être, il n'y aurait rien. C'est ex nihilo. C'est vrai qu'avant, il n'y a rien. Mais c'est parce que l'acte créateur de Dieu crée à partir d'une matière première qui existe, et cette matière première, c'est lui-même. C'est lui-même qui est la matière première. C'est Dieu qui est la matière première, c'est son amour. On est fabriqué avec l'amour de Dieu. Et c'est par la cause finale qu'on est réalisé dans l'être.
En Dieu, il n'y a pas de matière.
Non.
Vous dites que quand Dieu crée, il crée à partir de lui-même.
Oui. À partir, si tu regardes du point de vue de la cause efficiente, comme Descartes, il crée à partir de rien. Et si tu regardes du côté de la cause finale, il crée à partir de lui-même.
D'accord. Donc s'il crée à partir de lui-même, on peut dire que si Dieu crée le monde matériel, qu'il y a une potentialité de matière en Dieu. Pourtant, il n'y a pas de potentialité en Dieu puisque tout est acte pur. Comment expliquer ce problème ?
Oui, parce que quand Dieu crée à partir de lui-même, il crée à partir de lui-même un être qui va être un être limité. Lui est un être illimité, c'est un être premier. Et l'être premier est sans limite. Et c'est la limite qui fait la matière. C'est la limite qui va permettre une forme. Par exemple, tu vois, c'est parce que le blanc est limité dans sa forme que ça fait un lisse. Si c'était un blanc illimité, c'est la limite qui fait la forme. Et que cette forme va être matérialisée, dans certains cas, par la matière.
Il y a une consistance entre Dieu et la matière.
Ah non, il n'y a aucune consistance. C'est le fruit de la toute-puissance de Dieu. C'est la toute-puissance de Dieu qui établit quelque part. Oui, mais vous voyez bien que c'est comme si à part l'intermédiaire d'une cause... finale, efficiente, artistique, transcendante, hein? C'est pour le terme exact, si vous voulez le terme absolument exact, c'est une cause finale, efficiente, artistique, transcendante. Parce qu'elle intervient quand même efficacement dans le temps. Puisque je peux dire que l'instant d'avant, il n'y avait rien. Donc elle est efficiente. Mais c'est à partir de lui-même, donc c'est la cause finale. Et l'être existe à partir de la fin. Je rejoins toute la création existe, mais elle est tenue dans la créateur de Dieu en fonction de la fin. Ça ne veut pas dire que cette fin, il faut remonter les 3 milliards d'années qui nous séparent de la récapitulation glorieuse. Parce que cette fin se trouve dans l'éternité, et l'éternité se trouve dans l'instant présent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est les deux positions, hein, les deux grandes positions, la position de l'immortalité et la position de l'éternité. Les platoniciens, ben, c'est l'âme immortelle. Aristote, c'est la transcendance de Dieu dans l'instant présent. L'amour de Dieu fait que c'est dans l'instant présent, que nous sommes suspendus à l'éternité glorieuse. Je ne sais pas si passer par les 2000 ans qui me séparent de la récapitulation future pour atteindre Dieu. Vous voyez ? Bon, en tout cas, c'est quand même facile de comprendre que quand Dieu crée, il ne crée pas à partir de matière préexistante. Il crée à partir de lui-même, et c'est pour ça qu'on est à partir de rien. Quelqu'un qui constate qu'il n'arrive pas à aimer. Donc voilà où on en était. Quelqu'un qui n'arrive pas, et c'est ça le problème de toutes les gnoses, de l'ésotérisme, de la gnose, des médiums, tout ce que vous voulez, c'est qu'on essaie de s'investir dans le temps, ou de s'investir dans le temps présent. Et le problème est là, c'est que puisque je n'arrive pas à aimer dans l'instant présent, Ben, il ne me reste plus qu'à essayer de retrouver l'état dans lequel j'étais avant cet échec que je suis. Donc, je ne suis rien du tout. Et étant non-être, je suis le plus près possible de l'acte créateur de Dieu. Donc, je rejoins Dieu en constatant, en m'assimilant, en revenant à cet état dans lequel j'étais avant d'exister. Avant d'exister, j'ai été créé à partir de rien. Donc, c'est là où j'ai le contact direct avec l'acte créateur de Dieu. Mais ça, c'est une nostalgie, ça. Est-ce que je peux, dans mon être, toucher le moment où je n'étais rien, où je n'existais pas? Non, c'est une nostalgie. C'est une tromperie. C'est une galipette. Et au fond, la mystique de la vacuité du Dalai Lama, c'est ça. C'est de trouver cet état où je ne suis rien, où je n'existe pas. Où je n'existe pas dans l'état d'être dans lequel je suis actuellement. Et à partir duquel j'ai commencé à être, ce que je suis dans la réalité illusoire dans laquelle vous me voyez. Et elle est illusoire puisque je n'arrive pas à aimer. Je constate que je n'arrive pas à aimer. C'est tout le problème de l'humanité. C'est que donc je n'existe pas. Vous voyez ? Et c'est ça. Alors du coup, c'est un retour prodigieux en arrière parce que je sens quelque part qu'à partir du rien sur la base duquel j'ai commencé d'exister, il y a eu l'intervention de la créature de Dieu. Donc si je veux toucher Dieu, il faut que je dise, voilà, je retrouve l'état dans lequel j'étais ou j'étais rien. Ça, c'est toutes les gnoses, c'est ça. Toutes les gnoses, c'est ça. Bon, tandis que pour nous qui essayons de faire de la philosophie, je constate qu'en ce moment je suis là, j'existe, j'aspire, je suis fabriqué quelque part avec cette aspiration, cette puissance d'amour n'atteint pas sa perfection, c'est entendu, mais elle est quand même là. J'aime quand même. Elle est là avec cette j'ai une capacité d'aimer parfaitement. Même si cette capacité d'aimer n'arrive pas à sa perfection du point de vue de la réalisation. Mais n'empêche que cette capacité d'aimer, elle est là. Je suis fabriqué avec de l'amour. Ça, je le constate. Et du coup, comme je vois que je n'arrive pas dans mes actes à atteindre cet appel à l'amour qui est en moi et avec lequel je suis fabriqué, j'appelle, il faut que j'appelle, non pas à partir de rien, mais il faut que j'appelle l'amour à partir de l'amour que j'ai déjà pour qu'il soit réparé, complété. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ça peut se faire que dans l'instant présent. Ça peut se faire que dans le temps réel. Parce que le temps passé, c'est pas réel. Et le temps futur, c'est pas réel non plus. Quelqu'un qui vit dans son passé n'est pas dans le réel. Et quelqu'un qui vit dans le futur n'est pas dans le réel. Et un temps, quand on parle d'un temps réaliste, c'est l'instant présent. C'est l'instant présent, le temps réel. Un temps réel. Tout le reste, c'est illusoire. Or, l'amour, c'est réel. Donc, l'amour que j'ai dans toute sa puissance, but, d'accord ? Et du coup, j'ai besoin d'un rédempteur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que Dieu vienne incarner un amour que je n'ai pas, mon amour incarné. Et donc, il faut que Dieu se fasse homme. Il faut un sauveur. Bon, donc, lorsque je constate que moi, je bute, je suis limité dans l'ordre de l'amour, je ne vais pas en déduire, je suis une illusion, et que de cette illusion, il faut que je trouve la réalité de cette illusion, c'est-à-dire rien. Non, je ne dis pas ça. Je trouve que ça, c'est de l'orgueil de dire ça. Parce que ça veut dire, ce que je suis, c'est nul. C'est un échec total. Donc, l'œuvre de Dieu est un échec. Et donc je juge Dieu, tandis que si je suis réaliste, je constate que c'est mon amour qui est déficient, et je dis que c'est mon acte qui est un échec, c'est pas l'acte de Dieu qui est un échec, c'est mon amour qui, je suis pécheur, je fais des péchés. je fais des péchés, je dis, il n'y a rien à faire, moi je suis plein de péchés, je constate, je vois que j'ai péché, j'ai besoin d'être pardonné par Dieu. J'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin de ça.
Oui, mais l'homme dans son état actuel, est-ce que ce n'est pas une gradation de l'amour de Dieu? Puisque Dieu a créé des êtres spirituels, est-ce que l'homme n'aurait pas perdu sa dimension spirituelle?
En fonçant, oui. Non, il n'a pas perdu. Ah, oui. Oui, c'est ce que vous dites là. Vous voyez, c'est la position de Luther. La position de... Oui, oui, tout à fait. C'est une... Oui, tout à fait. On dit, ben voilà, est-ce que le péché n'a pas entièrement détruit toutes nos capacités de vivre spirituellement? Nous étions créés... pour aimer d'un amour spirituel, que ce soit pas seulement un amour animal, que ce soit pas un amour seulement végétatif, que ce soit pas un amour uniquement basé sur les énergies, mais aussi un amour spirituel, un amour humain, quoi. Un amour humain. Bon, alors la position, oui, moi je constate que je suis capable, lorsque j'aime, je fais l'expérience d'un amour humain. Donc je constate que le péché ne détruit pas en moi la capacité d'aimer humainement, donc d'aimer spirituellement, d'aimer de manière contemplative, d'aimer de manière... qui implique l'éternité, qui implique la subsistance dans l'ordre de l'amour. Mais n'empêche que cet amour va quand même de temps en temps être chaotique. Il va s'arrêter. Il ne sera pas continuellement dans un élan d'intensification qui ne s'arrête pas.
C'est pas simplement, pas tant pour reprendre les termes, mais pour revoir les hiérarchies. Parce qu'il y a les anges qui aiment librement.
Ouais.
Leur choix initial, ouais.
De contempler éternellement. Je ne sais pas, c'est bien, c'est sûrement très intéressant de dire ça, mais je crois qu'un ange, au moment où il est créé par Dieu, c'est un être de lumière pure. Donc c'est un être contemplatif pur, c'est une intelligence pure, c'est un contemplatif pur. Et c'est ce qu'il y a d'assez... Alors là, effectivement, il est déterminé dans sa contemplation, et il n'a pas le choix, quelque part. C'est un être purement contemplatif, ok? Mais à un moment donné, Dieu crée quand même tout être pour l'amour. Bon. Donc, mais sa nature à lui est une nature de lumière, de contemplation. Et il va permettre à cet être de lumière de choisir librement, dans l'état dans lequel il est créé, dans son état initial, avant la fameuse épreuve qui lui est proposée, l'ange, effectivement, est nécessité dans l'ordre de l'amour, un petit peu comme...
Il
est dans un état de perfection, il est dans un certain état de perfection, si vous voulez.
Puisque l'homme est limité dans sa forme.
Oui.
Oui, mais donc
prenons d'abord l'ange. Donc l'ange, bah, c'est le problème. Remarquez bien que vous n'avez jamais fait l'expérience angélique. Hein, donc, donc je suis obligé de parler de ça uniquement à partir de la révélation. Donc la révélation, elle nous indique ceci, c'est que les anges sont purs esprits, sont pures intelligences, qui sont faites pour louer, voir, servir Dieu.
Parce que je reprenais la phrase de... qui disait que l'homme était limité dans la forme, puisque la forme, c'était quelque chose...
Mais l'ange aussi, il est limité dans sa forme.
Oui, mais pour nous, c'est...
Il est une...
C'est au-dessus.
Ah ben, sa forme...
En compréhension, en appréhension...
Est-ce que l'ange est au-dessus, justement? C'est ça le problème?
Ah, il est créé pour accompagner l'homme.
Et, hein, c'est ça.
Il est
hein.
Créé pour accompagner l'homme.
Alors, du point de vue de l'amour, justement, il n'est pas au-dessus. Du point de vue de la vie contemplative, il est au-dessus.
Oui.
Du point de vue donc de l'intelligence, il est au-dessus. Il est des milliers de fois au-dessus de nous. Du point de vue donc de l'intelligence, de la perspicacité, de la capacité de recevoir la réalité divine et le monde invisible et les êtres immatériels. Là, il est parfaitement, c'est un boa très extraordinaire, un appétit mais extraordinaire du point de vue de la lumière.
C'est comme l'homme, être divinité.
Il n'est pas appelé comme l'homme, non, il n'est pas appelé à être divinisé comme l'homme
il sera divinisé, d'une, il est appelé à être divinisé, mais d'une autre manière que l'homme. Voilà, tout à fait.
Oui.
Alors, simplement, à un moment donné, Dieu propose à cet être de pure lumière de le choisir par amour. Et pour et c'est ce qu'on appelle l'épreuve des anges. L'épreuve des anges. À un moment donné, Dieu crée le monde angélique. Au commencement, Dieu créa, dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu créa le ciel et la terre et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est Moïse qui dit, ben oui, quand il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Moïse indique, c'est Moïse qui est l'auteur de ce texte, donc dans le Talmud, Moïse le commente en disant Dieu crée le ciel, c'est-à-dire le monde angélique, les esprits purs, et la terre, c'est-à-dire le monde chaotique de la matière. Bon, or, la terre était vague et vide, vous voyez, le chaos. Les ténèbres couvraient l'abîme, l'obscurité en fait couvrait l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc il donne l'unité en créant la lumière comme subsistant dans l'ordre de l'être. Il crée ce qui unifie tout ce monde chaotique de l'intérieur. C'est ce qu'on va appeler le tout. Le fameux tout des panthéistes qui trouve son unité dans l'ordre de l'être par cette lumière qui actue le diaphane cosmique et qui est créée par Dieu. Donc, ce qui prouve bien que cette lumière n'est pas le principe de la création, puisqu'elle est créée par Dieu. C'est Dieu qui est principe des créatures. Et la lumière est une créature, c'est quelque chose qui est créé et qui est inerte. Elle donne simplement l'unité. Elle n'est pas féconde, cette lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et à partir de la création de l'unité de la matière dans la lumière, les anges comprennent immédiatement que l'unité se fera du côté des créatures qui sont dans la matière. Et c'est ça la fameuse épreuve qui est donnée aux anges, c'est que eux qui sont au sommet de la création du point de vue de l'intelligence, ils comprennent d'un seul coup que Dieu privilégie du point de vue de la divinité l'unité incarnée. Donc la royauté, ce sera du côté de l'amour, ce ne sera pas du côté de la lumière. Pardon ? Alors ça, du coup, s'ils peuvent dire oui à l'amour en disant oui, nous voulons servir Dieu dans ce projet de sagesse où c'est l'amour qui est roi. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Oui, qui est comme Dieu ? Qui est comme l'amour ?» quoi. Et nous qui sommes lumière, là, au sommet de tout, il y en a qui disent « Comment ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Ce boulot de caca, là, il faudrait qu'on soit... Ah non, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça va pas du tout. Dieu s'est trompé. La lumière, l'intelligence, mettre l'intelligence au service de l'amour, ah non. Être serviteur des hommes, non. Donc c'est l'unité de la création qui va être le principe de la royauté et non pas le point de vue le plus digne de la création, c'est-à-dire la vie contemplative, l'intelligence pure. Ok ? Et ça, or l'unité ne peut se faire que dans l'amour. Et l'homme est la seule réalité qui va être créée par Dieu, qui récapitule tout le monde créé. Aussi bien le monde spirituel, puisque l'homme participe à l'intelligence, que le monde matériel pur, puisqu'il participe au monde minéral, que le monde de la vie, puisqu'il participe au monde animal, que le monde, etc. C'est lui seul qui fait l'unité en tout, donc c'est lui qui sera le plus capable de récapituler la création, et donc ce sera à son service que l'ange te fera. C'est pas qu'il soit au service de l'homme, il faut qu'il comprenne qu'il est d'accord en tant qu'intelligence pure de dire c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Et ce sera sa manière de choisir l'amour. Alors à ce moment-là, oui, s'il choisit l'amour, dans l'homme par excellence qui est uni à Dieu, le Christ, le Messie, alors il recevra un manteau de gloire qui est un manteau d'amour. Mais ça, c'est pas en raison de sa nature, c'est en raison de la grâce du Christ qui est en fait du Messie. Passe par l'homme. Alors, que Dieu prenne le visage d'un être humain avec des poils, la moustache, tout ça, je sais que c'est. Il faut reconnaître, c'est aberrant. Du point de vue contemplation, du point de vue de la perfection de quelqu'un qui cherche une perfection dans la vie contemplative, de l'intelligence. Ce poilu, là. Quand le démon le représente poilu, c'est la jalousie. Qu'est-ce que je prends de poil ?
On dit que les anges sont dans ce champ.
Comment c'est le petit piou-piou ? Vous savez bien qu'est-ce que c'est que votre enfant lorsque naît le cadet. Le tout petit est en train de naître et lui, il a 3 ans, on s'occupe. Quoi, ce petit poupiou, c'est lui qui attire toute l'attention et tout, et la jalousie naît. L'aîné vis-à-vis du cadet, c'est connu. Le tout petit. Alors il y a la jalousie. Mais ici, c'est une jalousie qui naît à partir de l'orgueil. Et une jalousie qui naît à partir de l'orgueil, c'est pas pareil, tandis que nous, nos jalousies, elles naissent à partir de la soif d'amour, c'est quand même pas pareil. Hein. Cette différence entre la jalousie angélique et la jalousie humaine. Mais il n'empêche que la jalousie humaine, c'est quand même un péché, hein. Même si c'est à partir de la soif d'amour. Mais enfin, néanmoins, c'est pas pervers, quoi.
C'est connaître aussi de l'orgueil, la jalousie. Parce que quelqu'un qui.
C'est vrai.
Peut être jaloux de son voisin, de ce qu'il a, de sa possession,
et
tout ça. Oui. On peut être jaloux d'une possession, pas seulement d'une personne, non. Mais de biens, oui. Matériels. On peut être jaloux du voisin parce que le voisin a réussi.
Oui, oui, non, tout à fait. Oui, oui.
Ça, c'est une jalousie d'orgueil plutôt que.
Qui s'enracine à partir de l'orgueil.
Oui.
Oui.
C'est dans la vanité, dans l'orgueil.
Il existe des jalousies humaines qui s'enracinent dans l'orgueil, mais l'exemple que vous prenez, justement, j'en ai pas. Hein. Mais enfin, c'est pas grave. Bah, une jalousie qui s'enracine dans l'orgueil, c'est quand je n'accepte pas que moi qui suis plus, que l'autre soit plus que moi puisque je suis plus intelligent que lui.
C'est ça. Dans ce sens-là que
je l'ai dit. Oui. Non, donc c'est une jalousie qui s'enracine dans la prééminence de l'intelligence. Et donc, la manière dont je fuis, je détruis en moi la jalousie spirituelle, c'est en disant, en faisant tout pour que mon intelligence soit au service de l'amour. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de la théologie, qu'on fait de la philosophie, pour que mon intelligence soit entièrement purifiée, pour que je puisse aimer réellement, en pleine vérité, en toute vérité, et j'accepte de prendre le moyen d'extirper toutes les illusions dans l'ordre de l'amour. Mon intelligence est au service de l'amour, est une servante de l'amour. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que je fasse un travail de l'intelligence, parce que le serviteur travaille. Alors comme c'est une intelligence pure, qui comme vous le voyez est créée dans la Genèse avant que la lumière ne soit actuée, la lumière qui actue et qui donne consistance à l'être, au cosmos, et qui va impliquer l'espace et le temps dans sa détermination, et l'ange est créé en dehors quelque part de cette succession de causes efficientes. Alors c'est pour ça qu'effectivement, c'est dans l'instant, c'est vraiment dans l'instant qu'il dit oui à l'amour ou non au service de l'amour. C'est pour ça qu'il se détermine à jamais.
Non, j'ai créé dans l'instant, mais
c'est dans l'instant qu'il se détermine pour l'amour.
Parce que si on pense à l'ange gardien, est-ce que Dieu le crée vraiment?
Mais l'ange gardien est rentré au ciel parce qu'il a.
Mais il est en réserve, mais sur étagère, et puis Dieu l'a prévu. Hein. ou alors je le fais en même temps que
l'ange. Ah non. Tous les anges sont créés au même moment, au même instant par Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Donc tous les anges sont créés par Dieu, là, par myriades. Tous. Et il y en a une multitude qui dit oui à l'amour, parce que qu'est-ce qui est plus grand que l'amour? Et ils se mettent entièrement pour que l'amour soit magnifié, et donc pour glorifier Dieu et le servir. Et du coup, eh ben, ils rentrent dans la vision béatifique. Immédiatement, l'onction messianique les prend, les revêt de son manteau, et glorifie leur intelligence dans l'amour surnaturel. Qui en réalité, dont on va découvrir en réalité dans l'éternité, que c'est la charité du cœur ressuscité du Christ qui brûle dans la résurrection. Puisque la charité incréée, éternelle, divine, incarnée, c'est le cœur sacré de Jésus. Mais ça, on découvrira seulement dans l'éternité, comme c'est en dehors du notre processus à nous temporel, la prédestination angélique, ça enveloppe l'alpha et l'oméga de la création, et donc c'est effectivement, ils sont enveloppés du manteau de cette charité, de cet amour. Alors donc, ils sont dans la vision béatifique. Et à partir de ce cœur sacerdotal du Christ, il voit ce que le Verbe de Dieu voit, lequel est enraciné dans le cœur humain du Christ qui est ressuscité. Donc il voit ce que le Verbe de Dieu voit, il voit la face du Père, ils sont dans la vision béatifique, ils reçoivent la lumière de gloire. Et tous les anges gardiens sont là, c'est ça ? Ils sont dans l'éternité. C'est bien qu'à chaque acte créateur de Dieu, effectivement, ils en chargent.
Et si l'être créé ne va pas rejoindre Dieu, ne va pas aussi son ange gardien ne reçoit pas l'enfer.
Là, vous voulez dire quand je dirais en enfer, quand je dirais en enfer éternellement, bon, mais je serai toujours en présence de Dieu. Je serai toujours en présence de Dieu, et c'est du reste ce qui fait l'enfer, puisque je ne veux pas de Dieu. C'est ça l'enfer. Je ne le vois pas, mais je suis en sa présence. Je tourne le dos, mais je serai toujours en sa présence. Et c'est ce qui d'ailleurs me fera hurler de rage. La peine du dame. Je sais que je ne veux pas, que je ne renonce pas, que mon acte de dire non à Dieu, il est spirituel, il est libre, il est lucide, il est volontaire, il est dans l'instant présent, il n'est pas dans une succession d'un avenir indéfini. Non, il est maintenant et à jamais. C'est volontaire, c'est lucide et c'est libre. Dieu, ça ne m'intéresse pas, je le dégueule. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. La prière, j'ai horreur de ça. J'aime pas cette histoire. Ça fait trop cucu, grenouille, machin, tout, non. J'ai pas. Dès que la grâce se rapproche, ça sent plus. Ah, j'ai envie de dégobiller. Je ne veux pas de ça. Vous voyez, c'est au fond de la spiritualité, de plus en plus de Lucifer. Qu'est-ce que vous voulez? Et alors, finalement, j'embrasse ça. C'est ça que j'embrasse. C'est ça que je veux. C'est ça que je choisis, et lucidement. Et donc, si Dieu me dit avec Jésus, mais enfin, même de ça, je peux te sauver, au moment de l'entrée dans l'instant définitif, et que je dis non à Jésus, pas besoin de sauveur, tout ce que je suis, je ne le regrette pas, et si c'était à recommencer, je recommence, et toujours je recommencerai, et je rentre dans cet instant éternel, je n'ai pas besoin d'un sauveur, et je ne suis rien, et je n'existe pas. Et c'est le néant, voilà. Pas besoin d'un sauveur, et j'ai pas besoin de Dieu non plus. Et finalement, comme quand je continue éternellement d'exister, puisque mon existence subsiste perpétuellement, je suis dans un état de lien direct avec la Créateur de Dieu, donc la présence créatrice de Dieu, et en même temps, je ne veux pas de lui.
Donc, du début jusqu'à la fin, on ne quitte jamais la présence de Dieu. On est en présence de Dieu à notre création, et on y reste même si on
veut. Voilà, alors justement, donc je ne veux pas, comme je ne, alors bon Dieu, bon ben il ne peut pas obliger, mais puisque je ne veux que la justice stricte
de Dieu, je vivrai éternellement pour glorifier la justice stricte de Dieu. Et ça, c'est l'enfer. Je suis en train de baigner dans un de ses attributs qui est la justice de Dieu. Il est ajusté à la liberté, la personne qu'il aime. Dieu continue de m'aimer infiniment et il s'ajuste à ma liberté éternellement. Donc je vis la justice éternelle de Dieu qui est magnifiée par ma réprobation éternelle. Mais tous les autres vivent de la miséricorde, de la gloire, de la béatitude, de la plénitude, de la communication, de la lumen glorie, de la charité fraternelle. Ce sera génial quand on va discuter.
Il y a une preuve.
Pardon ?
Il y a une preuve de ce que vous dites.
Ah.
Pour la reconversion d'une personne, ce qu'on appelle bien la reconversion d'une personne.
Oui.
C'est en fait, elle crée les dieux, elle a cet amour en elle, elle s'en éloigne. Et puis,
il y a un retour possible.
Un retour possible.
Ah oui,
tout ce qui s'est passé au vieux.
Ah oui, oui, ça c'est sûr. Absolument, ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que quand je rentre dans l'instant définitif qui est l'instant éternel, là j'ai un acte de liberté presque aussi lucide que celui de l'ange, l'ange pur. Et là, ça, c'est moi, personne ne va dans la réprobation éternelle qui ne choisisse lui-même. Donc, quoi que ce soit que tu aies fait. Quoi que ce soit que tu aies fait dans ton pèlerinage terrestre, quand tu rentres dans ce moment de discernement et de liberté de soi final, eh ben, quoi que ce soit que tu aies fait, tu peux vivre absolument du rédempteur, te convertir et être entièrement brûlé par le sang glorieux du Christ qui transforme tes panneaux, qui transforme tout. Si tu es entièrement péché, que enfin une once de bien, il y a toujours une petite once de bien quand même. Heureusement. Et bien, à ce moment-là, Jésus complète tout ce que tu n'as pas fait d'un seul coup. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Bon. Mais comme quand je suis dans cet état-là, ordinairement, je peux pas rentrer dans une charité d'une sainteté parfaite d'un seul coup, et bien, ordinairement, je suis entièrement sauvé quant au principe, mais maintenant, il va falloir que je rentre dans la purification. Mais il peut très bien qu'on puisse trouver quelqu'un qui n'a fait que péché sur péché tout le temps, et jamais un acte de bien. Pardon ?
Qui n'ont jamais rien appris, au point de vue.
Ah oui, non, ça c'est autre chose. À ce moment-là, il n'y a pas de péché.
Alors, ces deux écrivains qui sont suicidés, tout de suite, leur dernière parole, c'était bien qu'ils ne croyaient en rien.
Oui, ça, je reconnais que je ne connais pas ces glorieux personnages. Ah bon. J'avoue que c'est bon. Les pauvres, Dieu est leur âme, qu'est-ce que vous voulez, vous priez pour eux, mais la seconde mort. On n'a pas craint la seconde mort. La seconde mort. Pour la seconde mort. Oui, alors, la première mort, la première mort, c'est une conséquence du péché originel. Donc le péché originel s'introduit dans le monde et fait que je ne passe pas, comme la Vierge Marie, de l'état de cette vie terrestre à l'état de l'entrée dans la vision béatifique, sans ce passage de la rupture qui divise substantiellement ma personne par la séparation de l'âme et du corps. Donc ça, c'est la première mort. La première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, conséquence du péché originel. D'accord ? Bon. Et la seconde mort, c'est la conséquence du péché personnel, substantiel, définitif et absolu. C'est au fond la seconde mort, c'est quand je me sépare de Dieu. C'est cette séparation de Dieu, de l'acte créateur de Dieu. Or Dieu, quand il crée en moi l'être, et ce qui fait l'être humain, c'est ce qu'il caractérise, c'est l'unité en moi, substantielle, vivante, entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, la mort spirituelle, la seconde mort, pour moi, c'est ça. C'est que je rentre dans l'éternité, en refusant cette unité substantielle du corps, de l'âme et de l'esprit. Cette unité substantielle ne peut se réaliser que s'il y a un peu d'amour. Or, je refuse tout amour. Donc, je rentre éternellement dans cette dislocation de l'être, dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est ça la réprobation éternelle. C'est ça la mort éternelle. Parce qu'il y a une division en moi qui s'obstine à subsister par ma liberté.
C'est une division de l'âme et du corps.
C'est mystérieux hein, dans la réprobation, parce qu'on se demande, on se pose la question, dans certains passages, on se pose la question, c'est mystérieux, ça je reconnais que là je n'avance pas plus, parce que ce n'est pas défini par la Sainte Église, n'est-ce pas? Mais on dit que tous les morts ressusciteront donc, dans le corps. Et puis d'un autre côté, dans certains autres passages, il est dit que la résurrection est réservée aux élus, à ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, bon, à la vision béatifique, quoi. Alors, ça montre que... Ah si, je pense que les... Oui, je pense que les... Si, tous les corps ressuscitent. Oui, oui.
Oui, mais à ce moment-là...
Même ceux des damnés, alors...
Lors de la résurrection des morts, c'est les corps qui rejoignent les âmes. C'est le corps qui rejoint l'âme.
Et réciproquement, oui.
C'est mais si le corps d'un damné qui ressuscite rejoint son âme en enfer, et qu'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir d'unité substantielle entre son corps et son âme.
Voilà, c'est ça. C'est que
le problème est là.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose dans ce genre-là, c'est que la résurrection aura un mode de la chair, aura un mode différent. Dans la résurrection, pour la résurrection glorieuse des élus et pour la résurrection des damnés. Mais dans le premier moment qui précède le jugement dernier, c'est la même résurrection. Tous les corps ressuscitent. Ils ne ressuscitent pas tous en corps spirituel. C'est les corps physiques qui se relèvent. Bon. Et ce corps physique, pour ceux qui réintègrent ceux qui sont dans la vision béatifique quant à leur âme, donc quant à leur corps spirituel, font que leur corps physique est entièrement devenu corps spirituel dans la gloire. Tandis que, le corps, actuellement, notre corps physique et notre corps spirituel ne sont pas tout à fait ajustés. Tandis que l'ajustement sera absolu, et c'est pour ça que le corps physique sera entièrement assumé dans la détermination du corps spirituel, le corps sera entièrement spirituel, tout en étant physique, si tu veux. Mais, et il est corps spirituel. Bon, c'est pour ça que ça ne fait pas grande différence pour ceux qui sont déjà au ciel. Avant et après la résurrection de la chair, n'est-ce pas?
Ils ne jouiront pas d'autant plus de la gloire de Dieu et de la béatitude que leur corps participe pleinement à cette...
Il y a un plus, mais c'est purement accidentel.
Ah bon?
Bon. Tandis que pour ceux qui seront réprouvés, à mon avis, alors là, c'est pas défini, hein, c'est pour ça que moi, c'est un avis qui est personnel. Tandis que pour ceux qui vont ressusciter dans un corps physique, leur corps physique ressuscitera, se rejoindra à leur âme qui, elle, se fixe dans la damnation et la réprobation, dans la jubilation, la stricte divine justice de Dieu, ça. Alors, à ce moment-là, il sera absolument impossible. Ils se mettent le plus possible du côté du non-être, du côté donc de la matière. Et donc le corps physique restera corps physique. Et il y aura cette séparation quand tout le temps entre le corps physique et le corps spirituel et l'âme. Et donc c'est ce qu'on appelle la seconde mort, parce qu'il y a cette séparation et elle est perpétuelle. Non, c'est pas drôle. C'est vrai que c'est pas marrant. Oui, ma chérie, ça sûrement, c'est très intéressant comme hypothèse, mais malheureusement, le problème, c'est que la genèse de l'amour s'arrête. Et donc, il n'y a pas un retour possible, une conversion postérieure possible, puisque précisément, tu choisis dans un instant purement présent et donc vraiment définitif ton état. Donc, nul ne va dans la réprobation qu'il ne choisisse personnellement de toutes ses forces et dans une lucidité absolue connaissant toutes les conséquences. Mais c'est par orgueil, par pure obstination, moi, je trouve que, vraiment, Dieu a tort. Dieu a tort. Ça me révolte que Dieu permette ça. Je ne suis pas d'accord de rentrer au ciel sous prétexte que, voilà, j'y gagne. Je préfère me magnifier moi dans mon choix. Et ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Bah, c'était une... Mais n'empêche ce que tu me dis, oui, la résurrection de la chair se fait pour tous les hommes. Puis, d'accord ? Donc, si tu es dans un état de vision béatifique, ton corps retrouve l'âme, retrouve ton âme qui est dans la vision béatifique. Donc, aussitôt, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est évident, puisque ton âme spirituelle est dans la vision béatifique, elle est remplie de la lumière de gloire. La lumière de gloire est fabriquée avec le corps ressuscité du Christ, lequel est fabriqué, enfin déterminé, la terme exacte, par le Verbe de Dieu. C'est ça la lumière de gloire. Et donc, c'est assez quelque chose d'assez extraordinaire, du reste. Alors, à ce moment-là, ben, le Verbe de Dieu, lié au corps physique ressuscité du Christ, fait que du coup, ton corps qui vient de ressusciter, corps physique, est entièrement spiritualisé. D'accord ? À ce moment-là, ton corps physique reste physique, mais il est entièrement assumé, absorbé dans le corps spirituel. C'est-à-dire que le corps spirituel qui est... Et c'est pour ça qu'il y a cette agilité, cette subtilité, cette impassibilité, enfin les cinq propriétés des corps glorieux. Mais pour les autres, pour ceux qui ressuscitent dans leur corps, ils ont choisi personnellement, définitivement, le corps de l'Antichrist, par exemple. L'âme de l'Antichrist. L'Antichrist, on le sait, l'Antichrist, lui, est éternellement damné. C'est le seul dont on soit sûr, puisqu'il est dans l'Écriture, qui sera éternellement réprouvé. Bon. Parce qu'il ne voudra pas donc, que Jésus lui pardonne.
Le fils de perdition, donc c'est lui, c'est pas Judas. Non, alors un fils de perdition. Le fils de perdition, ce serait donc l'Antichrist.
Oui,
ben... Judas, on est absolument pas sûr qu'il ait été damné. On a
une... Non, non, Judas, il n'y a rien qui établit dans l'écriture qu'il soit. Donc, si, il y a. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, mais. Mais, bon, il aurait mieux valu. C'est macabre ce que vos questions hein, aujourd'hui. Mais remarquez bien que. C'est vrai, c'est important là, c'est de voir le mal. De voir le mystère d'iniquité, c'est quelque chose d'important. Il aurait mieux valu que pour lui qu'il ne fût pas né. Il aurait mieux valu pour lui alors qu'il ne fût pas né. Ah oui, vous connaissez le français ? En plus, c'est écrit en grec, qui ne fut pas né.
Oui, pas né, pas créé.
Pas créé. Pas existant. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fut pas né. Naissance. La naissance implique un mystère qui est le point de vue de la vie. Alors, premièrement, première remarque que je vous fais, ce n'est pas qu'il n'existe, il aurait mieux valu pour lui qu'il n'existe pas, qu'il ne fut pas créé. Ah, il n'y a pas dit ça. Parce que l'acte créateur de Dieu est coadjacent à Dieu. Dieu est présent dans son acte créateur du point de vue de l'être, Dieu est présent. Du point de vue de la vie, Dieu n'est pas nécessairement présent. Et comme il, effectivement, dans sa vie, il a mis qu'est-ce que, un peu la présence de Dieu, donc le Christ dehors, par la trahison, bah, effectivement, quelque part, c'est du côté de sa vie qu'il est déficient. Bon, premièrement. Deuxième manière de regarder. Du point de vue de la vie, même de la naissance, il y a plusieurs types de naissance, puisqu'il y a plusieurs degrés de vie. Il est né à une vie humaine. Il a été donc une âme spirituelle a été créée par Dieu en Judas. il est né également à la vie surnaturelle de la grâce. Il aurait mieux valu qu'il ne fût pas né à la vie surnaturelle, parce qu'il a été, il a voulu suivre le Christ, il a voulu que le Christ le choisisse dans le collège apostolique, il a voulu avoir le pouvoir que la grâce donne de guérir les malades, de transmettre le pouvoir sacerdotal, ce qu'il n'a jamais fait. Mais il avait ce pouvoir, qui était un pouvoir de grâce. Il aurait mieux valu qu'il ne fût pas né à la grâce.
Tout à fait, c'est ce que le Christ se dit dans le prologue. Ceux-là qui ne sont nés ni de la chair, ni
ni du sang,
ni d'un pouvoir de chair, ni d'un pouvoir d'homme,
oui, mais de Dieu. Mais de Dieu. Donc, c'est ceux-là sont fils de Dieu.
Et ça rejoint le discours de Nicodème aussi, oui, sur le.
Donc quelque part, non seulement il dit non seulement cette phrase ne signifie pas il aurait mieux valu qu'il n'existât pas, mais aussi il peut très bien vouloir dire, il n'y a que Jésus qui peut nous le dire, et toi tu ne peux pas le dire en lisant cette phrase, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né à la grâce d'élection du point de vue donc de son élection dans le sacerdoce, dans la plénitude du sacerdoce. Mais c'est très très bien qu'il vive quand même. Parce que quand même, au moment donc du jugement dernier, il y a cette miséricorde définitive qui actue à nouveau la liberté humaine en dehors de la grâce et qui fait qu'ils peuvent être pris non plus par la grâce du Rédempteur mais par la gloire du Rédempteur. Parce que le Rédempteur, dans sa gloire, reste Rédempteur. Mais dans un instant final, et il est définitif et éternel. Donc il n'est pas du tout dit, vous voyez bien, que Judas ne sera pas sauvé. Mais ce qui est dit explicitement, par contre, dans l'Apocalypse, c'est que l'homme, cet homme-là, qui est l'Antichrist, le faux prophète, le fameux Antichrist, là, ça... Mais ça ne veut pas dire non plus que Judas ira nécessairement au ciel. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et peut-être qu'il est en enfer. Peut-être, je n'en sais rien. Mais tu ne peux pas induire de texte du Christ qui dit il aurait mieux vu qu'il ne soit pas né. Tu ne peux pas affirmer qu'il est en enfer, au ciel ou au purgatoire. Tu ne peux pas le savoir.
Il a regretté ça.
Il n'a pas regretté. Il n'a pas regretté. La preuve, c'est qu'il a. Et il a voulu supprimer, et il s'est supprimé, donc il a rajouté péché sur péché. S'il avait eu quelconque contrition, il n'aurait pas rajouté un péché plus grave à son péché antérieur. Comment ça, il ne savait peut-être pas ? Bon. Le fruit des sacrements. Hein. Donc pourquoi? Comment ça? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un sauveur? Donc que nous soyons dans l'état de Judas. Donc dans l'état de Judas, ou de gens qui sont pires que Judas, parce qu'il y a eu des gens peut-être sans doute pires que Judas, où le Christ peut dire de nous, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né à la grâce. Il y en a énormément qui sont dans cette situation-là. Tous ceux qui ont reçu, par exemple, la grâce du baptême, depuis. Tous ceux qui reçoivent la... C'est une... Tous ceux qui reçoivent, je sais pas moi, la grâce de l'Eucharistie, et puis qui sont pas fidèles à leur baptême. Et donc, ils sont dans l'apostasie. C'est un même péché que Judas, c'est pareil. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né à la grâce. Bon, alors, supposez, donc, que quelqu'un se trouve dans le même état que Judas, n'est-ce pas? Donc, il a tout refusé au fond. Il a reçu la grâce, mais il l'a utilisée pour le mal. Il va utiliser l'Eucharistie pour faire des messes noires. Il va utiliser, etc. Il va utiliser le sacrement de mariage pour avoir une notoriété qui lui permet de pratiquer l'adultère partout. Donc, de faire la messe sponsale noire aussi. La messe noire sponsale. Bon, etc. Il va utiliser les sacrements pour le mal, pour le casser, n'est-ce pas? Etc. Tous les sacrements, le baptême pour être toujours dans un état de péché mortel. Il va l'utiliser parce que, bon, hein, donc, peu importe. Donc, il n'y a rien, vraiment, rien dans l'ordre de la grâce qui lui a été profitable. Comme Judas, si vous voulez. Je me retrouve ici, au moment du jugement particulier, quand le Rédempteur arrive et qu'il peut me pardonner substantiellement, immédiatement. Et je peux choisir entièrement le Rédempteur. Eh bien, il vaut mieux que je sois dans cette situation-là que dans la situation de quelqu'un qui vit beaucoup de l'amour, n'est-ce pas ? Beaucoup de l'amour, beaucoup de la grâce. Bon, mais pas parfaitement, il manque un tout petit morceau ici, n'est-ce pas ? Mais enfin, bon, il vit beaucoup de l'amour, mais pas parfaitement, à cause du péché originel, il y a un petit morceau manquant, mais enfin, c'est pas mal. C'est pas mal, son truc. Pas mal, mieux, peut mieux faire, mais a mieux fait que 99% des cathos. Bon. Il arrive ici, n'est-ce pas ? Voilà, avec son buvard bien cancéreux. Il arrive ici, voilà, avec des petites taches, n'est-ce pas ? Mais face au Rédempteur, il dit quand même, j'ai fait mieux que les autres, hein. Si, et je refuse la rédemption donc du Christ. Je peux donc uniquement à cause de cet âge ici refuser dans cet instant définitif l'acte rédempteur de Dieu parce que justement le bien que j'ai fait du point de vue de la grâce et du point de vue humain peut me faire choisir au moment où je découvre cet âge-là peut me faire provoquer en moi une espèce de révolte et un refus du rédempteur. Et me faire du coup cantonner au niveau de la justice.
Alors que je suis
strict. Et choisir la justice stricte. Et donc il vaut mieux, il vaut bien mieux.
Ça correspond avec la parabole des talents.
C'est pour le fruit de la dernière heure, oui. Non, mais ça veut dire simplement que c'est pour ça que l'Église dit que personne ne peut être sûr qu'il est sauvé par le Rédempteur que quand il sera au ciel. Parce que personne ne peut être assuré de la grâce de persévérance finale. La grâce de persévérance finale, c'est la plus grande grâce que Dieu donne à l'homme, du point de vue de la rédemption. Et cette grâce, il faut la demander tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour qu'elle nous soit donnée. Et donc on ne se présente pas devant le Rédempteur en fonction des actes de notre vie passée, même si ce sont des actes de grande sainteté, on se présente devant le Rédempteur avec ce souhait qu'il nous pardonne.
La petite Thérèse disait qu'il faut s'abandonner complètement, il
en
est sauvé,
il s'abandonne. Oui, mais ça, elle a sûrement raison. Moi, je sais pas, je trouve qu'elle n'a pas tort. Alors. Mais c'est au fond, la rédemption, c'est quand même important ça, cette histoire-là, n'est-ce pas hein? Bon, pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Parce que quelle que soit notre sainteté, quelle que soit notre adhésion, notre état, parce qu'on peut arriver à l'union transformante, hein? Enfin en principe quand même l'union transformante implique quand même... une disposition habituelle, mais enfin, c'est pas sûr, non. Même si vous êtes dans la septième demeure et que vous êtes dans l'union transformante, il y a encore une possibilité que vous n'ayez pas la grâce de persévérance finale. Et c'est pour ça qu'on on reste, même si vous êtes un saint, comme, je sais pas, Marc Robin, etc., vous n'êtes pas sûr, et vous êtes toujours, vous avez toujours peur du péché qui est en vous. Toujours, vous avez toujours peur pas être capable de demander à Jésus de vous sauver.
C'est la peur des saints, là.
Hein?
Cette peur des saints.
La crainte des saints, ils ont peur que de ne pas être capable de voir qu'ils ont besoin substantiellement, totalement du Rédempteur et du Sauveur. Oui, ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous avez le pire de tous, etc., et que du coup vous dites, mais j'ai besoin du Rédempteur, je le veux, et bien il rentre, tandis que l'autre qui est un saint, et ben il peut ne pas rentrer. J'espère qu'il rentre quand même. Ouais.
Quand même une grâce supplémentaire.
l'habitude de, d'avoir besoin d'être sauvé.
De Jésus, oui.
De Jésus en tant que Messie sauveur. Est-ce que ça, c'est une prédisposition à la, comment vous dites,
à la grâce de persévérance finale.
C'est une prédisposition. Est-ce que si on, si on demande, on fait l'effort de demander la grâce de, d'être sauvé.
Oui, parce que toutes les grâces sont coexistantes. Si tu veux, c'est comme un arbre. Donc les filaments sont liés les uns aux autres. Hein. C'est sûr qu'il y a des. Mais n'empêche que c'est pas quand même. Bon, en fait, il y a qu'une seule grâce. Quand on dit il y a la grâce prévenante, il y a la grâce sacramentelle, il y a la grâce habituelle, il y a la grâce actuelle, il y a la grâce prenante, il y a la grâce élevante, il y a la grâce de persévérance finale. C'est pas dire que toutes ces grâces sont séparées. Il y a qu'une seule grâce. C'est Jésus qui nous sauve. C'est ça la grâce. C'est la grâce capitale du Christ. Jésus qui ne se vient qu'une seule grâce. Arrêtez de nous embêter avec ses. À découper les cheveux en quatre. Bon, bah. Alors, si tu aimes Jésus, il n'y a qu'un seul habitus. Ce n'est pas l'habitus de la grâce, c'est pas l'habitus de la grâce sacramentale de confession, c'est pas l'habitus de. Parce que. Il y a une seule grâce, c'est cet habitus qu'on appelle justement la charité, par laquelle Jésus et moi, on est dans un amour fou. Une fureur d'unité entre nous. Sans Jésus, je suis éperdument malheureux, quoi. Moi, Jésus, j'ai besoin d'être avec Jésus. Jésus, je l'aime, il m'aime. Nous brûlons, enfin, une soif incroyable, étourdissante d'amour. Bon. Il faut qu'on soit vraiment un, tous les deux. Bon, Jésus et moi. C'est ça l'habitude, en fait. Mais. Quand même, il y a des gens donc, qui sont très très doués parce qu'ils ont suivi par exemple la retraite sur le mystère de la confession, par exemple, Saint-Saturnin. Bon, ça existe, il y a des catholiques qui l'ont fait ce soir. Et donc ils disent, oh là là, voilà, ça y est, maintenant j'ai compris comment on vit du sacrement de confession. Bon. Et ils vont avoir un habitus surnaturel pour rentrer dans l'attitude du mystère de la confession, dans l'attitude surnaturelle du sacrement. Bon, eh bien, si on s'arrête à cet habitus-là, proprement parlé, tout seul, hein, c'est la question que tu poses, est-ce qu'il y a un lien de nécessité avec la grâce de persévérance finale? Il n'y a pas un lien de nécessité, mais il y a un lien quand même. Il y a un lien par la grâce. Alors, ça, je ne veux pas insister trop, mais la petite distinction qu'il y a entre le lien entre les grâces peut... Une grâce que tu reçois et dont tu as l'habitude, tu aimes Jésus à travers le sacrement de confession, peut mériter, peut avoir pour propriété de mériter la grâce de persévérance finale, mais le mérite est de deux sortes, il est ou des, alors ça il faut savoir, c'est classique dans notre congruo, ou des condigno. Le mérite que tu as en accomplissant des actes de charité héroïque et de vertu héroïque dans la vie chrétienne te mérite la grâce de persévérance finale des congruo. Ça t'y dispose. Mais c'est Dieu qui donne la grâce finale.
Des congruo.
Alors la différence entre des congruo et des condigno, c'est que quand tu fais un acte particulier, par exemple quand tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, Jésus dans la communion à l'Eucharistie, tu as nécessairement une grâce, tu mérites nécessairement une grâce des condigno d'augmentation de la charité dans ton âme, qui est une nouvelle grâce. Le fruit du sacrement de l'Eucharistie, à ce moment-là, jaillit du sacrement. Tu mérites, en usant du sacrement avec un amour de tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces, donc l'amour maximum, à ce moment-là, tu mérites de recevoir le fruit du sacrement.
Je suis digne de...
Oui, tu es digne, c'est... Tu le reçois automatiquement, nécessairement, cette augmentation dans la charité, dont la modalité particulière sera le fruit de ce sacrement, qui est, vous voyez, cette habitude, très grande habileté pour revenir à notre sujet. Donc, décongruo, vous faites quelque chose, vous dites il faut absolument que je passe de la sixième demeure à la septième demeure. Donc je vais tout faire, je vais faire heureux anges, faire des actes de foi, d'espérance, d'amour, je rentre dans l'horizon de quiétude, je jouis de la présence, de la saveur, de la présence de Dieu, d'un amour, de la prière, d'un amour de sa saveur, d'un amour de sa présence, un goût de Dieu, etc. Et je le fais avec la plus grande force possible, mais c'est pas pour ça que je reçois automatiquement l'Esprit Saint qui me fait passer dans la mutation dans laquelle rentre l'âme lorsqu'elle rentre de la sixième à la septième demeure de... Mais l'Esprit Saint vient quand il veut faire ce passage. Alors, mais je m'y dispose. Mais c'est pas automatique. C'est quand il veut. Tandis que c'est conduit. C'est moche, hein, ces mots de théologie. C'est moche, hein, ces mots de théologie. Mais enfin, quand même, c'est... Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous voyez, quand on dit que les sacrements sont efficaces de opere operato, ils sont efficaces par eux-mêmes, c'est que si j'use de tous les d'un sacrement un jour, en y mettant ma charité, en y mettant tout l'amour que je peux, toutes les forces, toute mon âme, tout mon cœur, tout mon esprit, alors à ce moment-là, l'efficacité, la fécondité du sacrement nécessairement m'est donnée et je reçois le fruit. Qui va être une augmentation de la grâce sanctifiante, une augmentation de la charité, et, ou alors, et puis tous les fruits qu'on va voir, tous les fruits qu'on veut voir. Le fruit des sacrements. Vous voyez ? Bon, alors, il faudra quand même qu'on y aille, ce fruit des sacrements, et 4h30, on va souffler, et là, ça, on va attaquer, ça y est, le fruit des sacrements, parce que je vais fouiller dans mon sac.